tout de suite vos résultats sportifs, mais c'est bien plus que cela. L'émission Sportez-vous bien, présentée par Jean Sureda.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard vous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec le début de la saison de Formule 1 dimanche prochain. Enfin, nous recevrons Michel Caillot, président de la Fédération française de cyclisme. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Mehdi Guillonot. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir.
Et Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Comment va ce... Je me tourne...
Directement, allez,
voilà.
Allez.
Ouais.
C'est tout fait, suite, vas-y.
Pour bien commencer.
Allez-y, ça sera fait.
Je me tourne vers vous, Mehdi.
Le grand blessé.
Voilà, c'est le grand blessé, parce que vous vous doutez bien, cher auditeur, que nous sommes... de très très grands sportifs le week-end. Et voilà, Mehdi s'est claqué, s'est blessé au foot, racontez-nous.
Bah, tout simplement, l'euphorie peut-être d'une égalisation qui est arrivée juste avant.
Il nous a fait une Cavani.
C'est ça, un ballon long, je suis parti défendre, le ballon est sorti en 6 mètres et pourtant en posant un appui sur la jambe gauche, bah, tout a pété dans la cuisse.
C'est pas en célébrant
Non, même pas. Ouais. C'est juste après, tu vois, c'est juste après l'euphorie.
T'as le souvenir d'un Franck Leboeuf, un jour à Marseille, il avait claqué un péno, il s'est claqué aussi après en faisant le camp, il a sauté là, il s'est claqué. Ouais.
C'est énorme. Bah, c'est bon, presque ça.
Moi, je me pose quand même des questions parce que une blessure pour Messi. Pour Mehdi.
Ah oui,
une blessure pour Maxime. Il y en a qui n'écoutent pas la chronique santé de Didier Rubio, hein, parce que là, on a une équipe de bras cassés. Hein, donc, qu'est-ce que va nous faire Lucas quand il reviendra la semaine prochaine?
Moi, j'ai une très grosse croûte sur le mollet.
Ah non, on veut pas savoir en termes de croûte, là, Jean. Ça suffit.
J'ai taclé comme un fou
sur synthétique.
Et j'ai laissé une jambe sur le.
Appelle ça une pizza.
Une pizza, exactement.
J'ai une belle pizza. En parlant de pizza, on a quand même mangé dans le studio. On va pas citer la marque, mais on a quand même des belles boules chocolatées d'un emballage rouge, bien évidemment. Mmh. Et tout le monde en mange, sauf vous, Timothée. Qu'est-ce qui vous arrive?
Mais c'est vrai qu'on se pose la question. Je suis arrivé un peu plus tôt que d'habitude et je vois cette boîte là, les petites boules en chocolat, comme vous dites.
Allez-y, prenez.
Mais non, moi ça va, vous savez. Quoi, moi j'ai un objectif, bon alors c'est pas officiel donc on en parle pas, ça porte malheur, mais j'ai un objectif pour la fin de l'année, donc on se met déjà au régime même si je suis déjà bien sec.
Là, t'es bien, là,
ouais, donc voilà, on fait attention à l'alimentation, c'est important.
Il est affûté, ouais.
Bon, on va suivre ça de très près.
On n'en parle pas, ça porte malheur.
Et n'oubliez pas, ce soir après l'émission, il y a Sochaux qui joue.
Ah, il n'y a pas Joséphine ce coup-ci là.
Il n'y a pas Joséphine.
C'est pareil. Ah ouais,
quoique, il y avait les Enfoirés vendredi.
Oui, et il y avait Joséphine et donc Kylian Mbappé, on en avait parlé.
Ça lui a porté bonheur d'ailleurs à Kylian.
Qu'est-ce qu'il donne ce bien.
Voilà, et il joue demain soir le Paris Saint-Germain, juste après Sochaux, vous avez vu, c'est ça le...
Sous antidépresseur, il joue.
Je pense. J'espère que vous êtes prêts messieurs, nous on démarre maintenant bien évidemment avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt content. Je me tourne vers vous, Mehdi Guillonot. C'est une première, je crois, dans Sportez-vous bien depuis le début de saison. On va innover en termes de sport. On va sur un sport mécanique. On va parler moto. C'est bien ça?
On va parler MotoGP. On va parler jeune français. On va parler de Fabio Quartararo, qui a effectué son premier Grand Prix ce week-end au Qatar. Il a plutôt été correct puisqu'il a fait 5e des qualifications. Malheureusement, juste avant le Grand Prix, avant le départ, il a calé, donc il a dû partir des stands. Il a quand même effectué une belle remontée puisqu'il est remonté à la 16e place, juste à la limite des points. C'est Zarco qui finit 15e juste devant lui, qui prend le dernier point en jeu. Mais malgré cela, il a quand même fait le meilleur tour en course, c'est-à-dire qu'il a été plus vite sur un tour que les Lorenzo, que les Marquez, que les Rossi, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Pour Quartararo, c'est quand même le petit prodige de la moto française, très très jeune. On a changé des règlements pour lui, il a 19 ans, Il a 19 ans, Fabio Quartararo. On a changé des règlements
pour lui. Il a de quoi venir.
Exactement. Il a l'avenir devant lui, mais ça fait longtemps qu'il est déjà dans le circuit. On a changé notamment des règlements pour lui, parce qu'il a été de multiples fois, champion d'Espagne, parce que les meilleurs sont en Espagne chez les jeunes, et on a changé les règlements. C'est-à-dire que normalement, pour aller en Moto 3, les catégories moto, c'est Moto 3, Moto 2, et après en GP, on monte.
Et normalement, top 14 Pro D2, Ligue 1, Ligue 2.
Exactement. Voilà, et on est autorisé, même en Moto 3, à n'y aller qu'à 16 ans. Lui, il y a été à 15 ans, parce qu'il était tellement fort qu'on a changé le règlement pour que lui puisse y aller.
Mais c'est incroyable de se dire, je vais laisser mon gamin à 15 ans faire de la moto sur du 300 km/h, ça va dans les 200 km/h.
Les GP, même en pointe ce week-end au Qatar, c'était 340-370.
Ouais, voilà, ça va plus vite qu'une Formule 1.
C'est quand même incroyable, Timothée Brouillard.
Alors, Mehdi me le confirmera, mais je crois qu'il est passé de Moto 3 à Moto GP directement.
Non, il est passé par
Moto 2. Ouais. Mais voilà, comme le dit Jean, il faut quand même resituer un petit peu la chose. C'est un garçon qui est tout jeune, qui a été surclassé à plusieurs reprises. En plus, on a rarement eu des champions français en termes de moto.
C'est vrai.
Johan Zarco, bon, ça fait 2 ans qu'il est en MotoGP. Avant, c'était Randy Depugnier, mais qui n'avait pas des excellents résultats.
Et là, aussi,
voilà, mais on n'est pas non plus sur comme l'Espagne avec des champions tout en exception ou comme en Formule 1 où on est Alain Prost. Donc là, Fabio Quartararo à suivre. Il a une moto pas forcément très très performante, mais avec pas mal de fougue et un peu de punch, je suis sûr qu'il peut accrocher des bons résultats.
Pour expliquer, déjà, pour les motos, il n'est pas sur une moto d'usine, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas de toutes les progressions de l'année. Il a une moto plus ancienne, c'est-à-dire de l'année précédente ou de l'année d'encore avant.
C'est rare pour des professionnels comme
non, ça. Non, c'est-à-dire qu'en général, il y a les écuries Yamaha, Honda, etc., qui ont leur propre moto, qui développent leur moto, et ce qu'on appelle les écuries satellites, qui récupèrent les motos d'avant et qui, bon, les développent à leur sauce, mais en général, voilà, c'est les motos des années d'avant, donc en général, il y a quand même de grosses différences.
Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. On va échanger. On va venir en moto vers vous. On met la moto de côté et on va mettre les gants de boxe. Et alors, vous nous parlez souvent de ces sports de combat, mais là, il y a un événement quand même assez exceptionnel. Ouais. C'est le mot à Toulouse le week-end prochain.
Mais avant, je pensais un petit peu en parler dans l'agenda, mais on va quand même faire un gros coup de cœur sur ce gala qui aura lieu ce samedi, donc le 16 mars à 20h au Palais des Sports de Toulouse. Il sera diffusé aussi sur la chaîne d'équipe. C'est un grand gala de boxe, on peut le dire. Il y aura une magnifique carte avec en tête d'affiche donc Estelle Yoka Mosley, donc qui est la championne olympique de boxe des poids légers, qui va disputer son 4e combat professionnel. Elle va affronter une Ukrainienne, Olena Medvedenko, donc. Voilà, c'est comme elle l'a dit, en fait, c'est un combat de mise en route. Elle est un peu dans un début de carrière professionnelle, donc elle affronte pas encore des adversaires très aguerris.
Et on le rappelle justement, dans la boxe, on démarre par des videurs de bois.
C'est ça,
bouchers,
voilà. On démarre par des types qui sont pas forcément très très aguerris aussi. Et donc il faut gonfler le palmarès, faut gonfler le nombre de victoires avant de pouvoir prétendre à se battre pour une ceinture ou contre des champions. En parlant de champion, justement, on note aussi qu'il y aura Anthony Rea, qu'on avait reçu dans l'émission. Il va se battre en pancrace, donc voilà. Ce sera une première nationale d'ailleurs qu'un combat de pancrace ait lieu en même temps qu'un gala de boxe. C'est inédit. Il va affronter l'Espagnol Jonathan Casariego. Voilà. Donc, il y aura sa ceinture qu'il avait gagnée la dernière fois en jeu,
qu'il nous avait amené.
Ouais, il va la remettre en jeu. Ouais. Et voilà, après, rapidement aussi à noter. Qui aura le très prometteur Yannick Déez, en fait, c'est l'ancien champion de France des poids welter. C'est un jeune qui est il a 24 ans, mais c'est un boxeur qui est prometteur. Il vient de Mont-de-Marsan. Il va disputer donc un combat pour une ceinture IBO. Il va affronter l'Italien Alessandro Caccia. C'est deux boxeurs qui ont à peu près le même palmarès, à peu près le même niveau. Donc ça va cogner sec. À mon avis, ça va être assez intéressant à voir. Ça va être une belle affiche. Voilà.
Donc c'est au Palais des Sports. Les places sont encore disponibles ou c'est
il y a des places encore disponibles. Le gala a lieu samedi au Palais des Sports à 20h.
Voilà. Et bien évidemment, je pense que lundi prochain, on aura un compte rendu de cet événement. Ouais. Donc c'est samedi soir au Palais des Sports à Toulouse. Et sinon, si vous ne pouvez pas y aller, il faudra mettre la 21 chez nos confrères de l'équipe. Timothée Rouvière, un coup de cœur. On va recevoir tout à l'heure le président de la Fédération française de cyclisme, mais on va débuter tout de suite avec le cyclisme et un Français qui s'est montré ce week-end.
Qui s'est montré, qui brille depuis le début de la saison, Julien Alaphilippe, vainqueur des Strade Bianche. Les Strade Bianche, c'est une classique italienne. On n'en parle pas beaucoup. coup, c'est une course assez récente qui est apparue en 2007. Voilà, célèbre pour ses chemins de terre, ses secteurs de gravier blanc et ses montées raides. Et Julien Lafilippe, voilà, qui brille depuis le début de la saison et qui s'est imposé pour sa première participation. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Julien Lafilippe?
Qui l'a tout maîtrisé ce week-end.
Qui l'a tout maîtrisé, c'est le Kylian Mbappé du vélo, j'ai envie de dire. Voilà, depuis le début de la saison, il a été vainqueur de deux étapes sur le Tour de San Juan. Une étape sur le Tour Colombia 2.1. Et voilà, Julien, on sait qu'il est performant sur les classiques plutôt ardennaises. Ouais. Là, c'est une classique italienne, un petit peu comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, un peu flandrienne, comme on dit.
Un mec qui vient du cyclo-cross, non? Donc,
voilà, c'est ça. C'est un puncher. Il y a des similitudes, mais
par rapport à la course, comme vous avez dit qu'il y avait du gravier,
tout à fait. Mais voilà, on savait pas trop où il en était. Il avait eu une grosse préparation, etc. On pensait qu'il arrivait un petit peu fatigué sur cette épreuve, mais il s'est imposé face au coureur danois Jakob Fuglsang et au Belge Wout van Aert.
Il a survolé
la course, c'était sur l'équipe 21. Et moi, j'ai regardé juste l'explication finale et c'est des montées vers la Via Santa Catarina et des passages à 16%. C'est assez dingue. L'équipe, le Vélo Magazine titrait la marque d'un grand, je pense qu'on peut le dire maintenant. Ouais. Julien Lafilippe, c'est vraiment un grand. Il a 26 ans, je crois bien, et il domine. Sur le Tour de France, il va encore faire des ravages. Je rappelle, il a gagné le maillot à poids deux étapes l'année dernière. Voilà, vraiment impressionnant pour Julien Lafilippe. Donc le cyclisme français se porte bien, et heureusement qu'il y a Julien Lafilippe en tête de file. Romain Bardet aussi, qui avait fait deuxième l'année dernière sur ses classiques. Contrairement à d'autres années où on avait peu de Français, donc on avait des Français qui se montraient quand même sur les grands tours, là on a des Français qui se montrent sur des courses d'un jour et ça fait plaisir à voir.
Mehdi Guillaume.
Pour rappeler, l'Estrade Bianche, petit à petit, c'est en train de monter. C'est bientôt considéré comme le 7e monument. C'est encore trop récent, mais ça viendra. Et pour parler des Français, il y a Romain Bardet en ce moment. Il y a Paris-Nice qui vient de débuter. Ouais. Il y a eu deux étapes.
Il y a Barguil qui a arrêté. Ouais.
Exactement. Oui. Mais il est plutôt encore bien placé. Aujourd'hui, il y a eu encore des bordures. Ouais. Hier aussi, il y a eu des bordures. Ouais. Mais Bardet est encore dans la course et visera la victoire finale sur Paris-Nice.
On parlera bien évidemment d'une façon beaucoup plus large du cyclisme dans un peu moins de... Ouais, une demi-heure. Dans une demi-heure, on parlera de cyclisme avec le président de la fédération. Alors, en deux, trois mots, parce que voilà, vous avez pas réussi à vous décider, Mehdi Guillaume.
Ça a été compliqué.
Timothée Rouvière sur coup de cœur, coup de gueule. Je me tourne vers vous en deux, trois minutes. Il y a un ancien joueur du Toulouse Football Club qui survole le championnat d'Espagne, c'est Wissam Ben Yedder qui a encore mis un triplé hier contre la Real Sociedad.
Triplé en 13 minutes face à la Real Sociedad lors d'une victoire 5 buts à 2. Le garçon est né à 24 buts en 36 matchs de championnat. Il est le deuxième meilleur buteur français en Europe derrière Kylian Mbappé, et même le 7e buteur en Europe tout court. Ben, c'est la meilleure saison de sa carrière. Et puis on l'évoque et on y pense. Il y a une petite liste qui va arriver de l'équipe de France. Et
je dis, Didier Deschamps donnera il donnera sa première liste de 2019 pour les débuts des qualifications de l'Euro 2020. On est champion du monde, mais on doit quand même passer par les qualifications, ce qui est tout à fait normal. Ce sera contre la Moldavie et contre l'Islande. Justement, sans faire offense à ces deux formations, Timothée Rouvière, c'est le moment de prendre des mecs comme ça, en sachant qu'il le prouve, il a le niveau.
Moi, je pense que c'est le moment. Je pense que Didier Deschamps doit faire des choix maintenant. On est sur une année post-Coupe du Monde. Il faut faire des choix, il faut essayer. Il y a l'Euro 2020 qui arrive bientôt. Il y a les qualifications qui vont arriver là avec la Moldavie notamment. Moi, je pense que c'est le moment de faire des essais, de faire des tests, de changer de système en fonction des méformes, des blessures.
On doit voir Lacazette et Ben Yedder.
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut les essayer, même si Lacazette et Ben Yedder ont déjà été essayés. Ils ont eu trop peu de temps de jeu pour pleinement s'exprimer. Il y a Giroud qui va sûrement arrêter bientôt, donc il faut voir par qui il sera remplacé. Est-ce qu'on mettra Kylian Mbappé? Est-ce qu'on le laisse sur un côté? Est-ce qu'on appelle de nouveaux joueurs? Est-ce qu'Alassane Player peut devenir la pointe de l'équipe de France? C'est des questions auxquelles Didier Deschamps doit répondre, et je pense que c'est important d'appeler des joueurs maintenant pour faire des tests.
Maxime Brossard.
Clairement, la Moldavie, je suis d'accord sur le fait qu'on peut faire des essais, mais par contre, l'Islande, je me méfierais un peu, quoi, parce que si vous vous rappelez, la dernière fois, on a eu du mal quand même à les manœuvrer.
En amical, on avait fait 2 partout alors qu'on était mené 2-0 à Gagnon.
2-0, Bon, après, c'est sûr, c'est pas une équipe incroyable, c'est des hockeyeurs, hein, mais bon, le truc, c'est qu'il faut faire attention avec ce genre d'équipe.
Balleur,
non,
aussi.
Mais c'est vrai. Donc, honnêtement, moi, je me méfie. Je pense qu'il y a, il y a des matchs entre lesquels on pourrait faire tourner, comme la Moldavie, mais l'Islande, attention quand même.
Si l'équipe de France de football se porte bien, on aura, on l'espère, encore un bel été l'année prochaine pour l'Euro 2020. On espère que Wissam Ben Yedder fera partie de la liste. Lui, l'ancien joueur du Toulouse Football, Football Club. Il y a une autre équipe de France qui, alors elle, ne marche pas bien du tout. C'est votre coup de gueule, votre micro coup de gueule. Timothée Rouvert, bien évidemment, on va parler du 15 de France qui s'est incliné contre l'Irlande hier.
En plus, j'aime pas les coups de gueule. Moi, je suis quelqu'un de positif. Donc voilà, malgré que. Moi, j'ai regardé la première mi-temps. J'espérais que l'équipe de France allait, allait gagner, allait montrer un autre visage après la victoire encourageante, encore une fois, contre l'Écosse. Mais 19-0, on a dû passer 40 minutes à défendre. Encore, les Français ont été valeureux. On s'est dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire en seconde mi-temps, mais il n'y a rien, en fait, c'est le néant. Et moi, ce qui m'affiche, c'est surtout le manque de révolte. Jacques Brunel qui dit que ce n'est pas très grave. Les cadres qui sont absents. Voilà, c'est plus possible.
Maxime Brossard.
Ouais, pas de surprise, hein, l'équipe ne change pas forcément non plus. Donc, on pouvait s'attendre à cette défaite. Il n'y a pas de quoi s'insurger. Ça continue, c'est la ritournelle un peu. Ouais, c'est l'équipe de France qui perd et qui ne donne pas l'impression de se révolter sur le terrain, comme tu as dit. Je pense que même en se révoltant, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faudrait peut-être tout repenser tactiquement.
On en parlera encore un petit peu du tournoi destination dans l'agenda avec ce dernier match contre l'ogre italien. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes, messieurs, avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami. Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon
c'était Kenji Girac sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio. La semaine dernière, nous avions parlé de la préparation spécifique avant les courses à pied, le marathon, le semi-marathon, le 10 km. Là, aujourd'hui, on va parler des repas d'avant-match. Quelle est l'importance, justement, de ces repas avant les matchs?
Bonsoir, Jean. Alors, les matchs, on va parler des matchs de sport co, hein.
Oui.
Rugby, foot.
Le volley, le handball, etc.
Voilà. Contrairement à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, lorsqu'on a des épreuves qui durent vraiment très longtemps, évidemment, la prépa nutritionnelle est capitale. Sur les sports Co, on pourrait dire qu'elle est très importante parce qu'il y a une composante déjà psychologique, hein, émotionnelle, il y a le stress du match et le fait de prendre les repas ensemble. Mais réellement, le repas d'avant-match ne revêt pas une importance majeure, c'est-à-dire que c'est pas ce repas qui va faire gagner ou perdre. C'est la prépa durant,
durant l'année,
des semaines, l'alimentation bien conduite au cours de l'entraînement et des semaines de prépa. Le repas d'avant-match, ce qui serait très dommage, c'est qu'il soit tellement mauvais, effectivement, il fasse perdre. Mmh. Mais c'est pas lui qui va faire gagner.
C'est paradoxal, quoi. On peut perdre et on peut
pas
gagner.
Parce que par exemple, c'est pas le moment d'aller découvrir de la cuisine qu'on connaît pas, quoi. Mmh. Il faut que ce soit très très simple, c'est-à-dire franchement des féculents, par exemple des pâtes ou du riz, une viande qui va être de la volaille, quelque chose de très simple, des desserts avec des yaourts, du fromage blanc, de la compote, des fruits. C'est vraiment pas très compliqué et moi je mets pas trop l'accent là-dessus. Je fais en sorte que les sportifs focalisent pas forcément là-dessus. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est le fait de le prendre suffisamment avant l'épreuve.
Justement, c'est combien de temps? Par exemple, un match à 21h, il faut prendre le repas, la collation, on appelle ça une collation, combien de temps avant le match?
21h, il faut que la collation elle soit finie à 18h, c'est terminé. Quoi. Voilà. 17h30, 18h, c'est-à-dire facilement 2h30, 3h avant.
Comme ça, les aliments ont le temps d'aller dans l'organisme et de...
Exactement, c'est exactement ça, Jean. Il faut que les aliments sortent de l'estomac et commencent à partir pour pas être encombrés au niveau digestif.
Il y a quelques années, Lionel Messi, l'attaquant argentin du FC Barcelone, avait vomi durant quelques semaines régulièrement, carrément sur le terrain. C'est une mauvaise préparation sans doute. Là, on peut dire que la collation était trop tardive.
Alors, je sais pas, je connais pas le cas Lionel Messi, c'est bien dommage. Hein.
Ça serait bien.
Ça serait bien, je vais tenter de l'approcher. Mais ce qui est possible, c'est que parfois, il y a des athlètes, il y a des joueurs qui ont des niveaux de stress plus élevés que d'autres ou autres. Et cette gestion de l'avant-match, certainement qu'il y a des joueurs qui ont besoin de peut-être 3 heures, 4 heures même hein, pour que les aliments passent. Ou alors, ils ont besoin de manger très très peu, donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'ils mangent en amont. Par exemple, le petit déjeuner ou le repas, voilà, pour pouvoir être très léger sur leur dernier repas et éviter ce type de désagrément. Moi, c'est arrivé hein, que je vois des gens dans les sports mécaniques ou dans rugby, foot, des joueurs ou des sportifs qui sont encombrés, qui n'arrivent pas à digérer. Et de fait, il y en a même qui se font vomir parce qu'ils sentent bien que ça ne va pas.
Ça va pas.
Donc du coup, moi, je règle le problème en décalant toutes les prises énergétiques de la veille au matin, repas de midi, bien décalé. Et dès que les matchs, en fonction par exemple des médias, oui, sont redécalés, tout de suite il faut redécaler les prises alimentaires, toujours pareil, 3-4 heures avant. Quoi.
Et c'est compliqué pour les sportifs finalement, quand un match est prévu à 18h, on le décale à 19h, 20h, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, oui, parce que le terrain n'est pas assez dégagé, le bus est en retard. C'est vrai que ça change complètement tout, il faut se réadapter le plus vite possible.
Ah oui, tout à fait, il faut se réadapter le plus vite possible, ou bien des matchs programmés à 13h, hein, donc ça veut dire
c'est
quand
compliqué,
même,
tu vois, il faut... Souvent le rugby, hein, on est à Toulouse, bien évidemment, le stade toulousain. Souvent, le stade toulousain joue à midi, midi 45. C'est vraiment des horaires horribles pour des sportifs de haut niveau.
Il faut redécaler, c'est-à-dire que les petits-déj deviennent des gros brunchs. Hein, et les repas de la veille sont importants pour emmagasiner de l'énergie quand même. Comme on l'a dit finalement, un petit peu pour la course à pied. Oui. C'est-à-dire des repas qui ne vont pas forcément être très 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 gargantuesques, ce n'est pas la peine, mais quand même qui contiennent ce qu'il faut pour se tenir l'effort. Mais je répète, parfois il y a des sportifs qui mettent un peu trop de superstition dans le dernier repas en disant si je mange ça ou ça ou ça. Il faut rester simple, tranquille, manger suffisamment, des choses qu'on va digérer facilement. Bien sûr, ce qui est à proscrire, c'est quand même l'alcool. Hein.
Oui,
ça, on verra ça pour après dans la
récupération. Pour après le match, oui, voilà. On va en parler la semaine prochaine. Didier Rubio, merci.
Très bien, avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous. Maxime Brossard, oui. Sur ma feuille j'avais noté Lucas Serdic.
Le remplaçant.
On a le remplaçant.
Au pied levé.
On va commencer comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes. Ouais. Le rugby.
Ouais, le rugby direct. Allez. Bon là on passe, comme on en a parlé un peu, la France qui se déplaçait sur le terrain de l'ogre italien, attention Tremblay. ce sera le match pour la cuillère de bois. ben oui, on va devoir se contenter de ça, tandis qu'il y aura un Irlande-Pays de Galles qui pourra peut-être décider du futur vainqueur.
On a 6 points, donc je crois qu'on peut même pas finir dernier, donc match bonus.
Oui, c'est ça va être du bonus, ouais.
C'est quand même triste.
Mais du coup, ouais, ce sera samedi à 13h30. Voilà. Bon, bah, en attendant, je vous propose si de regarder autre chose si vous aimez le rugby ou si vous aimez le sport. Hein. Ne perdez pas votre temps. On va commencer par la Pro D2. Donc, le vendredi, ce sera Colomiers-Montauban à 20h au stade Michel Bendichou. Colomiers qui a perdu à Nevers 38-12 lors de la dernière journée. Ils ont perdu leur avantage qu'ils avaient pris par rapport à Bourg-en-Bresse pour la 14e place, pour le maintien. Et ils sont repassés 15e donc. Montauban, lui, de son côté, avait fait nul contre Oyonnax 19-19. Ils ont 48 points, mais ils doivent encore un peu cravacher pour vraiment acter le maintien. Ils sont 13e, donc affaire à suivre. Juste un mot rapidement, il y aura Massy-Béziers à 20h. Ça me fait penser qu'on peut rendre un petit hommage à Raoul Barrière qui est malheureusement décédé récemment, la semaine dernière, donc voilà, qui était l'entraîneur mythique du Grand Béziers. Il a gagné notamment 6 boucliers de Brennus.
Légende, de tout simplement.
Une légende du rugby, voilà, ouais.
Du club et du rugby.
Et du rugby en français en général. Ouais. Et rapidement, oui, jeudi, il y aura un super match entre Mont-de-Marsan et Bayonne. Je vous invite à le regarder, ce sera à 20h45.
Et on va parler, bien évidemment, un mot de Théo 13, l'exploit. Oui. On les avait reçus il y a 2 semaines.
Le Théo 13, avant de parler du top 14, ouais, une petite parenthèse du rugby à 13. Donc, le Théo 13 qui a laminé Toronto, vraiment. Toronto qui était premier de poule.
Qui est le grand favori, comme nous avait dit.
Comme nous avait dit Paul, ouais. Marcon, ouais. Ils ont gagné donc 46-16 au Stade. C'était au stade Ernest Vallon en plus. Donc,
6 000 personnes,
c'est pas mal pour le Théo. C'est un public fervent supporter qui sont venus. Ils vont tenter donc d'enchaîner ce week-end avec la réception de Barlow ce samedi à 15h30. Et là, par contre, je crois que ce sera à Blagnac au stade Ernest Argelès. Voilà. Et le Théo qui est quatrième de sa poule.
Donc tout va bien.
Tout va bien, ouais, on passe rapidement au top 14, donc avec Agen qui va recevoir La Rochelle. Agen 12e, La Rochelle 4e, ce sera samedi donc à 18h. En même temps, il y aura Castres qui reste sur 5 victoires de rang et qui a fait un gros carton, qui sont allés s'imposer à Lyon 15-23 lors de la dernière journée, qui va recevoir les derniers de l'USAP. Un mot aussi sur le match entre donc Clermont et Pau. Clermont qui est 2e, qui va recevoir Pau 11e, ce sera le dimanche à 12h30. Et enfin, le match du dimanche entre Toulouse, donc premier, qui va recevoir Lyon à 16h50, voilà, pour la Saint-Patrick. Donc, voilà. Ce sera pour Toulouse l'occasion peut-être de faire une 7e victoire de rang et peut-être un record pour de 13 matchs sans défaite.
Ce qui serait exceptionnel. Oui. On va parler un petit peu de football.
Oui,
c'est bien ça, j'ai pris l'accent.
Ouais, vous avez un bel accent du sud, Jean, c'est bien. Il va falloir venir un peu en cours avec moi quand même pour travailler ça. Mais...
Pas du tout.
Pourtant, vous êtes du Var, non?
Ouais, je suis né là-bas.
Et oui, alors attention. Et oui,
donc on part sur le football, victoire en fin du Toulouse Football Club.
Qui s'est imposé 1-0 contre Guingamp et qui s'est donné un peu d'air, vous étiez au match, non d'ailleurs?
Exactement.
Voilà, donc après, prochain match à Nice, ce sera vendredi à 19h.
Avant la trêve internationale.
Avant la trêve, ouais. Ensuite, j'enchaîne rapidement avec Colomiers en National 2, qui est 8e du classement, qui a perdu contre la réserve de Saint-Etienne et qui reçoit samedi la réserve de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux. J'espère qu'ils vont y aller avec le couteau entre les dents là, parce que c'est quand même le derby à 18h, ce sera à Capitani. Voilà. On enchaîne avec le basket du coup.
On part sur le basket.
Le basket, les filles du TMB qui se sont imposées donc à Reims 53-68, 5 victoires de suite pour les filles. Elles vont à Chartres ce samedi, elles sont deuxième à un point du leader. Voilà, donc ça se passe plutôt bien pour les filles, donc. Et puis alors rapidement aussi le volley, on avait reçu
les Spacers la semaine dernière.
Ben là, les Spacers qui vont recevoir donc Poitiers, ce sera vendredi soir à 20h pour la 22e journée du championnat au Palais des Sports. Poitiers 8e, Toulouse 10e, voilà. Et on conclut sur le hockey, le TBHC qui va jouer donc samedi à 19h30. Ils ont perdu le match aller 4-3 à Rouen,
donc ça va.
Donc,
c'est-à-dire
que ça se joue au nombre de victoires par match. Donc, là, il y aura donc le match 2 qui aura lieu samedi à 19h30. Si le TBHC vient à gagner, il y aura un partout entre les deux équipes. Et il y aura donc un match d'appui dimanche avec une horaire à prévoir. Là, je vous invite à aller sur le site du club pour vous informer de l'heure du match 3. On espère qu'ils vont se qualifier. C'est pour ça que je parle du match 3. Oui.
Exactement. On va suivre tout ça. Merci, Maxime. Nous, on passe tout de suite au débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Dimanche débute le 70e championnat du monde de Formule 1 en Australie. Lewis Hamilton, double champion du monde en titre, semble être le seul capable de se succéder lui-même. Derrière, l'écart est important, mais les outsiders sont bien présents. Messieurs, vous avez l'habitude, on ne répond que par oui ou par non. Tout simplement, est-ce que Lewis Hamilton va-t-il être inquiété cette année, Mehdi Guillonneau?
Non.
Maxime Brossard.
Je vais être honnête, j'en sais rien du tout.
Il y a Timothée Rouvière.
Oui.
Alors je me tourne vers Maxime Brossard.
Ouais, allez, allez-y, c'est moi là. Vous allez voir.
Alors Timothée Rouvière, il peut être inquiété, Lewis Hamilton, même s'il part... vraiment, c'est le favori de ce championnat du monde, encore une fois.
Alors, je vous l'accorde, il est favori pour ce championnat du monde. Lewis Hamilton, sur les 5 dernières années, c'est quand même 4 victoires en 2014, 2015, 2017 et 2018. Il dispose d'une voiture qui a été 5 fois championne des constructeurs. C'est un garçon qui est fondamental d'acier, qui domine outrageusement son sport depuis plusieurs années. Mais moi, j'aimerais quand même attirer votre attention sur les outsiders, comme vous disiez, Jean, en présentation tout à l'heure. Sur son coéquipier, déjà, Valtteri Bottas, 3 victoires à son compteur. Sur Sébastien Vettel et surtout sur un petit Français. Moi, je suis patriote. Hein, sur Charles Leclerc.
Français
monégasque. Voilà.
Officiellement, il est monégasque.
On est quand même content qu'il soit français pour
les impôts.
On le prend pour nous, celui-là. Quand il gagne, il est français. Mais quand il perd, il est monégasque. On est d'accord ensemble, Mehdi. Mais sur Charles Leclerc, qui était chez Sauber l'année dernière, qui avait fait... une saison formidable avec une voiture pas non plus très performante. Et là, qui a réalisé des essais assez extraordinaires avec des très bons temps. Il a eu plusieurs fois le meilleur temps en course. Il a terminé devant son coéquipier Sébastien Vettel, qui est quand même 4 fois champion du monde. Charles Leclerc, moi je mettrais bien une petite pièce dessus. Alors est-ce qu'il est assez performant pour titiller Lewis Hamilton? Je ne pense pas cette année. Mais en tout cas, il y a possibilité d'aller gratter des beaux points et quelques victoires. En tout cas.
Mehdi Guillonneau, pour vous, Lewis Hamilton, il est seul au monde?
Pour moi, il est seul au monde parce que l'écart est beaucoup trop grand, en fait. L'écart est beaucoup trop grand. L'année dernière, on l'a vu, avec pratiquement la même machine, il y a toujours des petites différences, mais il domine son coéquipier presque en permanence.
Est-ce que dominer son coéquipier, c'est entre guillemets pas voulu, du genre es numéro 1, Hamilton est numéro 1, toi tu es numéro 2, le but du jeu, c'est pas que tu passes devant le numéro 1. Pourtant, ça a été fait en 2016 avec Rosberg.
Il y a peut-être un peu de ça, effectivement, je pense qu'il y a de ça. Mais les autres voitures, même si elles rattrapent petit à petit le retard, ce que j'espère, parce qu'honnêtement, ça relancerait un petit peu l'intérêt de la F1 tout
l'année
simplement.
L'année dernière, il n'y avait pas de suspense, c'était un ennui incroyable. Hein.
Alors, on peut peut-être espérer qu'il y ait beaucoup plus de suspense, notamment avec nos Français qui sont sur de meilleures voitures, et pourquoi pas espérer carrément peut-être une victoire cette année pour Charles Leclerc, et des petites places sur le podium, par exemple pour Pierre Gasly. Ça peut
Gasly
faire
et
aussi,
Grosjean, ils sont trois Français.
Grosjean, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué.
Plutôt sur Gasly,
mais plutôt Gasly sur les Red Bull. Qui est chez Red Bull avec Verstappen, qui lui par contre aussi peut essayer de gratter quelques victoires.
Mais Red Bull a beaucoup de jeunes, c'est peut-être un pari sur l'avenir pour Red Bull. Hein.
Oui, c'est aussi ça, et moi j'aimerais aussi attirer votre attention sur Renault, notre petite équipe française, qui est revenue sur la F1 en 2016, qui a été 8e des constructeurs, 6e, 4e l'année dernière, qu'on fait un gros recrutement avec quand même Daniel Ricciardo, l'Australien, qui était chez Red Bull l'année dernière, qui a une nouvelle voiture. Et pour rebondir sur ce que disait Mehdi, moi je mettrais quand même une petite réserve sur Hamilton. Quand on regarde les essais quand même, on voit que Hamilton et Bottas ils sont 10e, 13e, et ça c'est pas habituel pour les Mercedes qui dominent. On voit qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits sur les autres voitures avec des moteurs assez importants et assez performants. Bon, il n'y a pas de surprise, on pense qu'il va gagner cette année, mais au vu des indicateurs actuels, on peut se poser des questions.
Maxime Brossard.
Moi j'avais une question pour vous. Les spécialistes, je voulais savoir ce qu'il est devenu Ocon, où est-ce qu'il est passé.
Alors, il est réserviste.
Voilà, il est réserviste chez Mercedes, son contrat n'a pas été, renouvelé, mais on garde quand même 3 Français. Romain Grosjean qui est depuis 4-5 années, il est au sein de l'écurie Haas avec Kevin Magnussen.
Numéro 1,
il est numéro 1. Bon après, Grosjean, ce serait bien qu'il arrive
à
s'exprimer.
Plutôt
à s'exprimer, parce qu'entre les crashs de voiture, entre les accidents,
problèmes techniques
et les mauvaises,
un petit peu,
c'est ça, et les mauvaises performances et les problèmes techniques, c'est un peu compliqué. Mais après, Pierre Gasly chez Red Bull avec Verstappen, et surtout Charles Leclerc chez Ferrari, il y a possibilité d'avoir des podiums côté français cette année.
Justement, on vient de parler de Ferrari, on parle de Charles Leclerc, mais par contre son coéquipier qui est lui le numéro 1 de l'écurie, c'est Sébastien Vettel, qui semble être quand même le pilote qui va le plus inquiéter Lewis Hamilton. On le rappelle, il est quadruple champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013, et ça tombe bien parce que Ferrari n'a plus gagné, n'a plus été champion du monde avec un pilote depuis Raikkonen, le Finlandais, en 2007. C'est peut-être le bon moment et pour Vettel et pour Ferrari d'être sur le toit du monde, justement.
Ben on l'espère, justement, comme on le disait, que les Ferrari progressent en termes de
c'est mythique, les Ferrari,
exactement,
sur la Formule 1.
De voir Ferrari tout en haut, de toute façon, ça fait plaisir à tout le monde, quelque part, maintenant. avec autant de victoires de Lewis Hamilton, presque tout le monde est derrière Sébastien Vettel et espère qu'il aille le titiller. Pourquoi pas la bonne année, hein. Ça peut vite basculer dès le début de saison si Lewis Hamilton se rate sur le début de saison et que Vettel tient son rang. Pourquoi pas?
Oui, tout à fait pour Ferrari. Et moi, je vais encore rebondir sur Charles Leclerc. Moi, j'ai lu un interview de lui dans l'équipe ce matin et il disait qu'il était chez Ferrari depuis plusieurs années, qu'il avait préparé mentalement et physiquement et qu'il
était réserviste avant.
Voilà, il était réserviste. Ouais. On appelle ça pilote d'usine. Oui. Et il était là pour apprendre. Il allait énormément apprendre aux côtés de Sébastien Vettel, qui est quadruple champion du monde.
C'est clair.
De toute façon, c'est tout bonus pour Charles Leclerc. De toute façon, et Vettel,
il avait été champion du monde chez Red Bull.
Voilà, tout Vettel, à fait. Attention. Tout à fait, voilà. Chez Red Bull, mais jamais chez Ferrari. Il a changé, ça a été un gros changement pour lui. Moi, j'ai un peu peur qu'il soit un peu juste d'un point de vue mental quand même. Sébastien Vettel, on sait que chez Red Bull, c'était Red Bull qui dominait à l'époque en termes termes de voiture. La Ferrari, c'est un petit peu moins fort au niveau du moteur et la performance pure de la voiture. Donc on verra, mais après c'est une saison qui va être pleine de rebondissements. Il y a il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux moteurs, il y a des nouveaux pilotes, des nouveaux enjeux. Donc on va se régaler, moi.
Justement, sur comme vient de dire Timothée Rouvière, Ferrari est un peu moins puissante que Mercedes, mais quand on regarde le championnat du monde, il y a quand même beaucoup de grands prix où c'est extrêmement technique. On pense bien évidemment en premier à Monaco, mais il y a le Bahreïn, il y a Azerbaïdjan qui est quand même assez technique. Est-ce que Ferrari peut jouer là-dessus, justement sur des grands prix qui sont pas forcément qui sont faits pour la technique, justement?
Plus que sur ça, ça sera aussi sur la fiabilité de la voiture. L'année dernière, Ferrari a eu pas mal de problèmes avec la fiabilité
exactement.
De la voiture. Vettel a été lâché par sa voiture.
Mais souvent 2 3 4 grands prix même où,
il me semble que c'est au moins 2 3 grands prix où en fait, il lâche complètement des points et ça le met à des années-lumière d'Hamilton au classement du championnat du monde des pilotes. Il était peut-être pas si loin que ça. Et les progrès de Ferrari vont être orientés, je pense, dans ce sens-là, pour pas qu'il y ait de casse moteur et pour pas qu'il y ait des points techniques qui lâchent, et pour espérer être vraiment régulier tout au long de la saison et qu'il n'y ait pas de trous qui peuvent l'empêcher de concurrencer Lewis Hamilton.
Oui, c'est vrai, comme le titrait très justement Mehdi, c'est vrai que Ferrari n'a pas été très fiable l'année dernière. Moi, je pense aussi que ça va être une question de course d'équipe et une question de course tactique d'un point de vue de l'économie du moteur entre les essais, les trois essais du vendredi, les grands prix pour la pole position et surtout en termes de choix de pneumatique. Et on pense que l'environnement et les conditions climatiques vont jouer un rôle important cette année.
Merci messieurs, nous on verra, donc ce sera très tôt le matin, c'est à 7h du matin le Grand Prix d'Australie.
Juste pour finir, signaler quand même le retour en F1 de Robert Kubica, qui avait eu un grave accident en 2011.
On
a eu très peur pour lui. Exactement, il a une main qui est abîmée, mais on lui a adapté la voiture pour qu'il puisse revenir en F1. Et le revoir là, il me semble qu'il a 34 ans maintenant, c'est quand même un réel plaisir et c'est à souligner.
C'est du mal à conduire ma Saxo avec mes deux mains. Il fallait une Formule 1 avec grand moins.
C'est ça. Merci de le signaler. Et puis cette année, le championnat du monde va être dans l'histoire, puisque le 14 avril, surtout, le Grand Prix de Chine marquera le 1000e Grand Prix de l'histoire, tout simplement. Donc c'est un super compte. Timothée Rouvière pour terminer.
Et dernière chose, le retour du Grand Prix de France au Castellet le 23 juin, c'est important de le préciser.
Exactement, merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec notre invité de la semaine, à tout de suite. C'était Cat Centuries Kinon sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Ça va pour l'anglais, Maxime.
Je suis admiratif. Là. Vous avez fait des progrès, c'est incroyable. On a de suite compris que c'était les chats dans les arbres.
Voilà, exactement. je progresse. Notre invité est à la tête d'une des fédérations les plus importantes de France. Depuis 2017, Michel Callot est président de la Fédération française de cyclisme. À quelques mois du Tour de France et en plein Paris-Nice, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Michel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio Présence dans Sportez-vous bien. Voilà, on l'a dit, vous êtes le président de la Fédération française de cyclisme. Tout simplement, quelles sont les missions que vous avez au sein de cette fédération ?
Vous savez, un président de fédération, il a plusieurs rôles à jouer. Il y a bien évidemment un rôle qui est permanent, qui est un rôle de représentation du cyclisme français. Et c'est important pour moi de porter l'image de notre fédération auprès des instances, hein, politiques, publiques, des partenaires privés au sens large, l'économie. Donc ça, c'est le rôle, on va dire, de porte-parole de la fédération. Et ensuite, il y a deux autres rôles qui sont tout aussi importants. Il y a un rôle d'animateur. Moi, j'ai toujours tendance à dire de fédérateur, hein. C'est le rôle qu'on a au contact de nos territoires, de nos clubs. Et puis, il y a un rôle qui s'assimile finalement à un rôle de chef d'entreprise, parce qu'une fédération, c'est aussi une grosse PME.
Combien de licenciés, pardon, la Fédération française de cyclisme, en sachant qu'il n'y a pas que le cyclisme, on va en parler juste après.
Oui, alors la Fédération française de cyclisme a 115 000 licenciés, ce qui représente mal ce que pèse finalement notre sport en France, mais tout simplement parce qu'on peut pratiquer très facilement le vélo sans être licencié de la Fédération, contrairement à d'autres sports où on est quand même captif.
Justement, au sein de la Fédération française de cyclisme, on compte donc le cyclisme sur route, il y a le VTT, le BMX ou encore le cyclisme sur piste. On parle de budget par rapport à toutes ces branches dans la Fédération. Est-ce que tous les budgets sont similaires par rapport à ces sports ?
Alors, par rapport aux différentes disciplines, donc là, vous avez cité quatre disciplines qui sont olympiques. Il faudra en rajouter une autre puisque le Freestyle Park rentre au jeu de Tokyo. Donc, vous voyez, une difficulté, c'est qu'on est olympique, hein, sur cinq terrains de jeu différents.
Alors, ça complique le job, entre guillemets ?
Oui, ça le complique et ça l'enrichit en même temps. Hein, mais ça veut dire qu'il faut cinq filières d'accès au niveau, ce qui est quand même à organiser. Chacune des disciplines que vous avez citées a des caractéristiques très différentes. Si vous prenez par exemple le VTT, vous voyez, les élites sont dans des teams, donc ils ne sont pas à charge de la fédération. Si vous prenez la piste, c'est une discipline qui est 100% portée par la fédération parce que nos athlètes ne peuvent trouver des entraîneurs, des conditions pour faire du très haut niveau que dans la fédération. C'est ce qui peut expliquer également que vous ayez des budgets qui sont finalement différents entre les différentes disciplines, simplement parce que leur structuration n'est pas la même.
Et c'est dû à quoi comment on varie les budgets par rapport à ça ? Est-ce qu'on parle de résultats sur les championnats du monde, sur les Jeux Olympiques justement, ou c'est au nombre de licenciés qu'on ajuste les budgets ?
Non, on essaye de partir du besoin. En fait, la mission de la fédération, c'est sur chacune de ces disciplines de faire en sorte d'avoir des athlètes qui sont capables de briller dans les championnats du monde, aux Jeux Olympiques ou de passer professionnel quand il y a un secteur professionnel. Et c'est par rapport à ce besoin et à la spécificité de l'activité qu'on essaye de mettre les moyens en face. Alors c'est sûr qu'on n'en met jamais assez, mais notre travail, c'est d'essayer de trouver des solutions pour mobiliser le plus possible de ressources sur chacune des disciplines.
Question de notre chroniqueur Timothée Rouvière.
Bonjour Michel, vous parliez tout à l'heure de vos missions et du travail que vous effectuez au sein de la Fédération Française de Cyclisme. Est-ce que c'est qu'une partie administrative ou vous allez aussi sur le terrain à la rencontre des sportifs et des clubs ?
Non, il faut effectivement être le plus possible sur le terrain. Alors il y a des occasions qui sont liées aux événements, ça c'est sûr, notamment pour les organisateurs. Il y a tous les temps formel lié à la vie associative, c'est les temps d'assemblée générale, c'est les temps de présentation, donc on essaye de se répartir un petit peu avec mes collègues de l'exécutif. Et puis il y a les temps sportifs, notamment les compétitions internationales, où je me fais un devoir d'être présent pour aller voir nos athlètes sur le terrain et nos staffs surtout.
Justement, quelles courses sont organisées par la FFC au cours de l'année ?
Alors, en direct, la FFC organise ou pilote directement l'organisation de 16 championnats de France différents, avec les catégories d'âge, et 88 Coupes de France. Et ça couvre l'ensemble des disciplines qu'on a évoquées juste avant.
Et par rapport on est en plein Paris-Nice, justement, il y a le Tour de France, bien évidemment, cet été. Quel impact a la fédération par rapport à ces courses ?
Alors là,
est-ce qu'elle a un impact ?
Alors il y a un lien évidemment parce que on est c'est certain dans le domaine professionnel, donc c'est du ressort administratif de la ligue puisqu'on a cette organisation comme d'autres sports professionnels avec une ligue qui est autonome, mais malgré tout la Fédération française de cyclisme intervient. Elle intervient par exemple pour désigner des arbitres, elle intervient pour assurer ses compétitions. Et elle travaille en étroite relation avec la Ligue sur des sujets comme le calendrier ou le positionnement finalement de ces épreuves dans le dispositif international.
Mehdi Guillonneau.
Bonjour Michel, je voulais vous poser une question sur l'organisation de championnats du monde en France. Je sais que la France était plus ou moins candidate pour 2023, malheureusement ça sera à Glasgow. Est-ce que ça pourrait arriver dans les années à venir ?
Alors très clairement, pour un championnat du monde, de cyclisme sur route, la première date qui s'ouvre, c'est 2026. Donc j'ai manifesté auprès du président de l'Union cycliste internationale la volonté de positionner la Fédération française cyclisme candidate pour 2026. Bon, alors il reste un petit peu de temps parce que c'est pas un championnat qui sera attribué tout de suite, en tous les cas pas dans les deux prochaines années, mais ça nous permet de commencer à travailler le dossier et surtout à repérer les collectivités qui en France seraient susceptibles de pouvoir porter un tel projet.
Sur le plan, on va partir sur le plan sportif pur, entre guillemets, sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu des années où le cyclisme français a eu un peu de mal. Quel œil vous portez tout simplement sur le renouveau justement de ce cyclisme avec une génération dorée, on peut le dire ?
Oui, en ce qui concerne le cyclisme sur route, effectivement, on relève franchement la tête avec ce qui me fait le plus plaisir, c'est des coureurs capables de briller sur tous les terrains. Dans les courses à étapes, c'est vrai que ça a pu être un petit peu moins bon pendant une période, mais quand même, par tradition, la France a toujours sorti des bons coureurs de courses à étapes. C'était beaucoup moins vrai sur les classiques. Là, on voit que c'est en train de s'inverser un peu avec Thibaut Pinot l'année dernière qui gagne le Tour de Lombardie, Julien Alaphilippe qui samedi dernier a fait quand même un numéro sur les Strade Bianche. On sent qu'on va être de plus en plus présent sur ce terrain-là également, et puis sur le sprint avec Desmar, Boigny, Adrien Petit, etc. En fait, on a du monde sur ces terrains-là.
Justement, tout à l'heure, on évoquait dans nos coups de cœur et nos coups de gueule Julien Alaphilippe, pour reprendre les mots de Timothée Rouvière, nous disait que c'était le Mbappé du vélo, tout simplement. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous aussi ?
Je pense que Julien, c'est un garçon qui se découvre de plus en plus, qui prend conscience d'un potentiel extraordinaire. Bon, on voit le coureur de classique, hein, ça c'est indéniable, mais ce qu'il a fait l'année dernière sur le Tour de France montre qu'il est capable de passer la haute montagne de très belle manière. Rappelons-nous qu'il a gagné une étape dans le passé contre la montre sur Paris-Nice, donc c'est quand même un coureur très très complet, et je crois qu'il fait partie du très très petit cercle de Français qui peuvent rêver un jour gagner aussi un grand tour.
Justement, est-ce que comme au tennis où on énerve souvent les tennisman entre guillemets sur depuis 83 et la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, est-ce que vous aussi ça agace un petit peu entre guillemets hein, bien évidemment au sein de la fédération le fait qu'il n'y ait pas de Français depuis un long moment qui gagne le Tour de France, et est-ce que justement Alaphilippe peut être ce premier Français à le faire?
Non, je crois qu'il ne faut pas s'en agacer, au contraire, hein, ça doit être une source de motivation et de travail. Alors, je pense qu'on a trois Français aujourd'hui qui sont, il y en a quand même deux qui sont montés sur le podium récemment, oui, hein, oui. Thibaut Pinot, Romain Bardet. Julien Philippe, pour les raisons que j'évoquais, me semble à mettre dans le même groupe. Oui. Bon, peut-être qu'il faut pour ces coureurs-là des circonstances de course un peu favorables pour que ça puisse se transformer. Hein. Il leur manque quand même un potentiel un peu plus important sur le contre-la-montre. Ça, on l'a identifié comme une faiblesse. Et vous voyez, côté fédéral, on a lancé là un plan important sur ce qu'on a appelé le « rouler vite » pour commencer avec la prochaine génération à combler cette lacune du contre-la-montre qui nous empoisonne, hein, il faut bien le dire, depuis quelques années quand même, pour pouvoir prétendre régulièrement avoir des coureurs capables de gagner ces grands tours nationaux.
Timothée Rouvière.
Par rapport à ces difficultés françaises sur le contre-la-montre, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place, ou est-ce que ça a déjà été mis en place, un travail entre la Fédération française de cyclisme sur route et la Fédération française de cyclisme sur piste? On sait qu'on a de très bons coureurs avec Grégory Boget et François Pervis. Est-ce qu'un travail entre ces deux fédérations peut éventuellement être envisageable?
Alors, je vous corrige juste sur un petit point. Tout ça, c'est bien dans la même fédération, hein, dans la Fédération
oui.
française.
Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'un travail entre ces deux branches de fédération peut être envisageable pour améliorer, en tout cas, le niveau du cyclisme français sur le contre-la-montre?
Oui. Alors, nos cadres techniques travaillent ensemble. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, la difficulté, elle est plus dans la structuration du cyclisme tout court, qui fait que on a très peu d'organisations de contre-la-montre, donc déjà il faut rectifier le tir là-dessus. Et puis on a, en France, on a toujours eu une aspiration très forte pour détecter des grimpeurs, parce que bah voilà, dans le Tour de France, ils font le spectacle et un coureur voit bien qu'il peut se réaliser de cette manière-là ou par le sprint. Mais du coup, on a négligé complètement ce volet de la formation qui est le contre-la-montre, qui est beaucoup plus austère, et vous avez raison de le dire, il est souvent en relation avec la piste, comme l'ont montré les Anglo-Saxons, et c'est vraiment une filière qu'on est en train de reconstruire, mais très activement, on a un plan qui a commencé à se déployer dès cette année dans les régions.
Pour revenir sur le Paris-Nice, ça a commencé donc hier. Est-ce que c'est une répétition générale avant le Tour de France? Et d'ailleurs, quel est votre favori, si vous pouvez, pour le Paris-Nice?
Bon, je crois que pour le Paris-Nice, bon, les favoris, il faudra les chercher peut-être du côté de la Sky, hein, avec la doublette Kwiatkowski-Bernal qui sera dure à battre. Des coureurs peut-être comme Sanchez également, mais oui. Moi je crois beaucoup dans Romain Bardet, parce que le Paris-Nice c'est souvent une course où il y a du mouvement, il peut y avoir des renversements, et Romain est un coureur qui a la science de la course. Voilà, je mettrais bien, c'est un peu chauviniste, mais je mettrais bien une petite pièce sur Romain cette année dans Paris-Nice, je sais qu'il l'aborde avec beaucoup de motivation.
Et Paris-Nice, donc c'est répétition générale, oui, pour le Tour de France. Justement, le Tour de France, il y a trois équipes qui se battent actuellement pour deux invitations sur le Tour, Direct Energy, Vital Concept et Arkea Samsic. Est-ce que vous pouvez mettre un avis justement sur ça, ou c'est tout simplement l'organisateur du Tour de France, donc ASO, qui s'en charge?
Non, alors c'est vraiment une prérogative de l'organisateur. Hein. On est dans un système d'invitation qui sont l'apanage de l'organisateur, on n'a pas notre mot à dire là-dedans, et en plus on est dans le secteur professionnel qui dépend, comme je le disais tout à l'heure, de la Ligue, donc c'est vraiment ASO qui va prendre sa décision sur ses critères, et moi je fais confiance à ASO pour que ce soit vraiment des critères sportifs.
Et on va en parler, bien évidemment, il y a les Jeux Olympiques de 2024 en France, c'est dans 5 ans. Quel est votre rôle justement dans cette organisation de ces Jeux Olympiques 2024? Quel rôle a la Fédération Française de Cyclisme?
Alors ça, c'est un de mes combats. Je me bagarre pour qu'on ait un rôle important et un rôle notamment dans l'organisation des Jeux Olympiques, évidemment, pour les disciplines du cyclisme. C'est pas naturel parce que le système des Jeux Olympiques fait qu'il y a souvent beaucoup de sous-traitance pour l'organisation des épreuves. Nous, on a un savoir-faire et pour les équipes de la fédération, pour tous les clubs qu'on représente, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir parce que être présent dans le dispositif des Jeux, ça change quand même nettement le regard qu'on peut avoir sur une fédération. Et puis à côté de ça, bah, y a toutes les thématiques liées à l'héritage, hein, c'est-à-dire quelle trace ça va laisser dans notre pays, dans notre sport, les Jeux en France. Et on a déjà pas mal travaillé avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour faire un certain nombre de propositions autour du vélo, mais là le vélo au sens beaucoup plus large que la seule compétition.
Justement, on va juste sur le sportif en quelques secondes. Est-ce que l'idéal ce serait quand même de faire, enfin c'est pas l'idéal, ça va être le cas de faire mieux que l'échec, on peut le dire, des JO de 2016 à Rio. On apprend justement de ces erreurs. Comment éviter ce cataclysme qu'il y a eu à Rio?
Oui, vous avez raison de dire on apprend de ses erreurs. En tous les cas, on doit apprendre de ses erreurs. Moi, c'est ce que j'ai essayer d'amener en contraignant un petit peu tous nos techniciens à passer dans une phase d'analyse et pas justement à refermer le couvercle sur cette difficulté qu'on a eue à Rio. J'espère qu'on saura justement tirer les enseignements justes, qu'on ne s'est pas trompé dans ces analyses-là et que les moyens qu'on est en train de mettre en œuvre porteront leurs fruits. Alors déjà à Tokyo, hein, avant de parler de Paris, parce qu'il y a cette étape.
Exactement, qu'il faut 2020, pas rater, oui, oui.
En 2020. Et ça sera déjà très important de repartir de l'avant pour notre fédération. Je pense que il faut avoir en tête que les Jeux Olympiques deviennent de plus en plus concurrentiels parce que de plus en plus de nations sont capables de faire une bonne préparation pour les Jeux Olympiques. Mais ça doit nous stimuler et il faut qu'on essaye de rassembler autour de nos athlètes bien tous les paramètres de la performance qui sont de plus en plus nombreux et qui incluent les aspects techniques.
Merci beaucoup Michel Callot, merci d'avoir été avec nous sur Radio Présence.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup, c'est déjà terminé messieurs pour nous ce soir. Merci à Grégoire à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honey et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Nous messieurs, comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine avec Radio Présence.
Radio, un seul nom, Présence, la radio chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin.